RMC,
PLM et toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon!
Arnaud Souk.
Salut à tous, c'est l'After jusqu'à minuit sur RMC, en simultané sur RMC et BFM Sport. Ravi de vous retrouver. Et en 2018, ils sont toujours là, les inséparables. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et je bonsoir, n'ai pas. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, tu n'étais pas obligé, Arnaud.
Non, mais je n'ai ni perdu de Paris, ni eu la volonté d'imiter Nicolas Villas. Je l'ai
ça,
mis.
Ça un look de faire ça. Tu n'étais pas
mais
obligé.
Daniel.
Je pense qu'il va pas finir l'émission, le ne pas.
Il va finir l'émission, si, je te le garantis. Tu sais, mais ça fait longtemps qu'il passe sur RMC. Il passait sur RMC Découverte à l'époque. Avec Jean-Jacques Bourdin. Mais bon, ça, toi, t'as pas connu.
Pourquoi sur RMC Découverte?
Mais parce que tu sais, il y a la matinale d'RMC.
Et donc
il y était.
Eh ben, je présentais les journées des sports, figure-toi, à l'époque, et je mettais le nœud papillon.
Mais mon vieux, je ne savais pas. Et je ne voilà. connais pas toute ta carrière, pardonne-moi.
Bravo. Et voilà. Bon, c'est bon.
Je suis absolument confus de ne pas avoir ça de toi.
On peut commencer. Au programme, messieurs, vos avis tranchés.
RMC Découverte.
Oui, non, mais c'est magnifique. Bah, RMC Découverte et surtout RMC La Radio.
Qui marche très bien.
Voilà, qui marche très bien.
Bravo.
Les avis tranchés.
Et RMC Découverte, toi, tu dois connaître. Je te promets, je n'ai jamais regardé. Et pourtant, à chaque fois que je vois les bandes annonces, ça me fascine et j'ai envie de regarder. Je connais pas du tout le programme Top Gear.
Ouais.
Début de la saison 4 hier.
Tu connais, toi?
Non.
Bah, moi non plus. Non. À chaque fois que je vois les bandes annonces, je me dis, il faut que je regarde une fois dans ma vie.
Mais regarde! En plus, il y a une nouvelle saison qui a commencé hier.
Tu connais vraiment, toi, ou pas?
Hein?
Tu connais, toi, t'as
déjà. Bah, je connais. Après, je regarde pas spécialement, mais je sais que la saison 4.
Ouais, c'est tout. À l'œil, comme ça, je me dis, putain, mais regarde une fois, ça a l'air assez fascinant, assez dingue et tout. Puis, visiblement, ça a quand même beaucoup de succès. Ça vient d'un programme anglais. Je suis un peu renseigné sur le truc. Mais jamais je me suis foutu devant. Il faut que je fasse une fois.
T'as pas été dedans, non, quand même?
Non, j'ai pas été dedans. Mais en tout cas, tu vois, tu tapes 24 sur ta télécommande et tu tomberas sur la RMC Découverte.
Y a pas Francky qui a fait un peu de la bagnole là-dedans?
Ouais, il me semble.
Ben voilà. Allez, on parle de foot, messieurs, avec au programme du soir vos avis tranchés. On va notamment parler tout à l'heure de la Sanadière. Est-ce que je peux en placer une? Parce que je vais pas pouvoir créer toute la soirée comme vous pouvez le remarquer.
Un sommaire qui dort 4 plombes.
À chaque fois, tu me reproches. On parlera notamment de la Sanadière tout à l'heure, annoncée de manière récurrente au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est toi, Jérôme, qui voulait nous en parler. 32-16 et hashtag RMC Live. Les infos du jour également au menu. Que s'est-il passé sur la planète Mercato? On en parlera. Et puis tout à l'heure, à 23h, débat autour de la création ou pas, d'ailleurs, d'une Super League fermée européenne façon championnat de basket NBA. Elle regrouperait les meilleurs clubs européens. Certains militent fermement pour. C'est parti pour l'after. C'est l'avis tranché de Daniel Riolo.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, il aurait glissé son pied dessus.
J'étais pas là, ça.
T'imitais qui, là?
Bah, lui, non,
c'était ça. Personne.
Tu t'imitais à toi.
C'était
belle caricature. Belle caricature de toi-même. Tiens, juste avant de te donner la parole, on va aller voir Timothée Mémon à Wembley pour le match Tottenham-West Ham en première ligue. Salut Timothée, où en est-on dans cette rencontre?
49e minute de jeu, 0-0 à Wembley entre Tottenham et West Ham. C'est Tottenham qui a dominé la première période. La reprise est similaire à cette première période puisque, ce sont les Saints qui font le forcing. West Ham essaye de procéder en contre. 50 minutes de jeu donc, 0-0.
Allez Daniel, je te donne la parole pour ton avis tranché. Je crois que t'en as marre des supporters un peu pleurnichards.
Il n'est pas gagné ce match assez facile là. Pour l'instant, c'est contre Pierre.
Ouais, le gardien fait une grosse première mi-temps en tout cas.
Ouais. Oui, en ce début d'année, pour tout dire, ça a commencé pendant les vacances parce que ça a démarré avec la sortie du président de l'OM.
Jacques-Henri,
j'allais dire Jean-Jacques encore une fois, je me trompe décidément à chaque fois. Jacques-Henri Hérault, donc, qui avait commencé, et je pensais pas que ça prendrait, enfin, je suis naïf parfois, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur là, son ouin-ouin sur les arbitres. Réponse de Jean-Michel Aulas, et évidemment, et je sais pas, encore une fois, je suis peut-être très naïf, je pensais pas que ça enflammerait autant les supporters. Moi, on m'a expliqué, et j'écoute les explications dans ce cas-là, moi, que c'est fait exprès pour galvaniser les troupes, pour montrer qu'on veut avoir de l'influence dans les instances. Donc, visiblement, c'est important pour les présidents de club d'en faire des tonnes sur les arbitres qui sont pas bons, le fameux concept bon développé depuis des années maintenant du on dérange, qui va bien à tout le monde, qui va bien aux Marseillais, qui va bien aux Lyonnais quand c'est l'époque des Lyonnais d'être dans cette attitude là, qui dans le passé ce concept je sais pas, je crois qu'il a été utilisé par à peu près tout le monde au moins une fois. Et ça me gave, mais je te jure, ça me gave. Ça n'en finit plus. Hier, donc je parle de ça. Je dis oui, les Marseillais se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de pénaux. Mais en fait, au fond, moi je m'en fous. Mais on en est à calculer. Je ne savais pas. Moi j'ai dit une énormité hier soir, pensant que c'était pas important, donc savoir que si une équipe ou une autre était plus rentrée dans la surface pour obtenir tout. Moi je savais même pas qu'il y avait des chiffres là-dessus. J'étais sur une autre planète. Ah. Donc j'ai dit ouais, les Marseillais sont moins entrés dans la surface de Lyon, mais sans le savoir. Mais il y a des vrais chiffres là-dessus. Ce sont des articles que je ne lis même pas. Visiblement, l'équipe a fait un article là-dessus. Mais je lis même pas tellement ça ne m'intéresse pas, tellement je trouve que on ne parle pas foot. Et moi, mon appel en ce début de l'année, c'est à quel moment on va arrêter, parce que plus ça va, pire ça devient. J'aimerais qu'on parle foot, on n'en peut plus là. Hier, c'est Wenger. Wenger, tous ces mauvais résultats,
c'est dû à des
décisions. C'est tout le temps l'arbitre, ouais. C'est tout le temps enfin, le machin.
Il y a une part de vérité quand même.
Non, hier. Je suis désolé. Moi, j'étais au match. Je peux te dire.
Daniel a retenu ça.
Mais je retiens pas.
Il n'y a pas de vérité. Si tu commences à dire qu'il y a un fond de vérité. Ça veut dire, alors moi, je veux bien.
Je suis d'accord avec toi en plus sur le fond. Mais je veux bien
admettre. Même, je veux bien aller à Marseille, dans tous les cafés, les clubs de supporters, les gars, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un complot. Expliquez-le-moi, j'ai envie de savoir. Et pour Wenger, puisque tu dis qu'il y a un fond de vérité,
je te parle du fond de vérité sur le match d'hier. Je te dis pas que Wenger dit qu'il y a un complot. Voilà, non, quand tu dis qu'il y a une farce au niveau de l'arbitrage.
Sur le match d'hier, tu dis qu'il y a un fond de vérité. On est trois sur ce plateau, on est deux déjà à dire le contraire.
Voilà, moi, pour parler, partager.
On est trois sur ce plateau, on est deux à penser ça déjà.
Mais c'est la démocratie, c'est parfait.
Mais oui, non, mais pas.
Non, mais il s'agit pas de démocratie. Il s'agit. Je te dis simplement que il n'y a pas de choses.
Je te dis simplement que tu prends l'exemple de Wenger hier. Je te dis pas qu'il a raison sur toute la ligne. Il prend un exemple très concret hier sur un fait de jeu.
Il prend sur des faits de jeu. Alors il peut y avoir des erreurs.
Il peut avoir raison sans que ce soit un scandale.
Moi je donne pas raison.
Mais tu ne peux pas en continu.
En fait c'est
ça. Je suis d'accord avec toi.
C'est sans arrêt. Daniel a raison là-dessus. Si tu veux, c'est sans arrêt. Tu sens que il y a une frustration par rapport aux résultats et se cacher derrière ce genre de choses, ça soit des pénaltys non sifflés, que ça soit des faits de jeu comme tu dis hier, En gros, tu te dédouanes de ce qui se passe.
Mais surtout,
parce que
tu ne veux plus parler foot.
Voilà, c'est ça. Tu fuis les vraies questions. Après, on a tous joué au football. Ce que je veux dire, que ça soit n'importe quel niveau, encore une fois.
L'expression de la frustration dans le sport, ça existe.
Elle existe.
C'est le tennisman qui se casse sa raquette.
Oui.
C'est le footeux qui s'en prend à l'arbitre ou à ses coéquipiers ou à l'adversaire.
Et puis Daniel, c'est toujours pareil sur des saisons. On l'a vécu. Il y a des saisons où c'est comme ça. Tu vas obtenir, je te dis une bêtise, 15 pénaltys. Tu dis, et ça tombe du ciel. Et pourtant, tu les mérites pas forcément les 15, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des saisons, et on dit souvent, sur une saison, ça s'équilibre. Alors, peut-être pas, ça se fait pas tout le temps pour tous les clubs, mais sur un ensemble, sur 10 ans, je peux te dire que ça varie pas mal. Lyon a pleuré au bout d'un moment. Mais Lyon, rappelle-toi des années 2000, quand tout allait bien, ils obtenaient par moment des décisions à arbitre pour eux, alors que franchement c'était délicat et tout le monde disait bah ouais, on n'a pas envie de faire tomber l'Olympique Lyonnais. C'était pas ça, il y avait la réussite, ils allaient chercher ça. Et ben ça fuit d'autres clubs aujourd'hui. Marseille en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui sur les pénaltys. C'est vrai qu'ils en obtiennent pas beaucoup. Est-ce qu'il était flagrant contre Marseille? Non, mais personne n'en parle. Mais le dernier obtenu, c'était à Montpellier. Rappelle-toi, Thauvin qui égalise.
Oui.
Franchement, il y a pas quelque chose à dire sur le pénalty. Tu te dis, mais attends, mais
moi j'ai rien à dire. Je ne dis jamais rien.
Mais ils l'ont obtenu, tant mieux. Mais c'est discutable. Hier, tu me parles de Wenger. Wenger,
il n'y a pas des équipes. Il y a pas des équipes, Jérôme, Daniel, envers lesquelles c'est plus difficile de siffler que pour d'autres. Ça n'existe pas, ça.
Mais pourquoi?
Mais parce que
moi, je veux bien.
Parce que dans l'inconscient. Arnaud. Parce que à partir du moment où tu acceptes que l'arbitrage ce soit une notion où tu laisses libre cours à l'interprétation, t'es obligé visiblement en football parce que c'est pas soit tout blanc soit tout noir.
Mais sur l'arbitre, je suis d'accord qu'il y a une forme de pression. Non, mais quand tu joues dans un stade de 100 000 personnes. D'accord. Tu vas jouer à Barcelone. Barcelone qui joue le Real Madrid sur un choc. Voilà, je sais pas. Il y a Barcelone qui obtient une faute qui est limite. L'arbitre il sait pas trop. Il y a faute, il y a pas faute. Peut-être il réfléchit à deux fois, il se dit oh, je vais pas siffler ou je vais siffler parce qu'il y a une pression énorme. Peut-être, mais le fait de jouer à domicile, ça sert aussi cette pression, oui. mais ça se vérifie pas partout.
Non, mais ça là-dessus, Arnaud, là-dessus, c'est un autre débat. Si tu veux, on peut en parler. C'est à la limite, je préfère même ça. Je trouve que c'est plus intéressant. Je termine. C'est cette non-volonté de parler de foot. Par exemple, c'est Mourinho qui n'arrête pas en ce moment. Et il en vient à être obligé d'aller taper sur Paul Scholes, Wenger sur Henry, et expliquer les mauvais résultats autrement que par le jeu. Parce qu'ils proposent, parce qu'ils ont envie de proposer, qu'ils nous disent qu'un tel est pas en forme, qu'un tel joue pas et tout. Et donc là, on arrive en ce moment, on est dans une guéguerre Marseille-Lyon au sujet du nombre de pénaltys, de quand tu rentres dans la surface, de machin, de ceci, de ça. Mais au fond, pourquoi je dis que c'est pas intéressant? Parce que qu'est-ce que tu peux prouver? Qu'est-ce que aujourd'hui les supporters de l'OM qui sont excités avec ce sujet peuvent dire d'un éventuel complot? Moi, je suis prêt à l'entendre. Moi, si les mecs demain arrivent avec certaines preuves et tout, en me disant, ben, on a entendu qu'à la Ligue, putain, le boss des arbitres, vraiment, il aime pas l'OM, machin, tout ça. Donc, bon, écoute, on fait une enquête. Ça existe, je vais te dire. Rarement, on est passé au travers. Même une équipe, même un club comme la Juve. Dans les années 2000, quand ça a fini par capoter.
Non,
il y avait eu des choses. Donc, on en revient à ce que tu disais, qui est un autre sujet, mais qui peut être intéressant. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'Italie, c'était un concept développé là-bas, c'est de la soumission psychologique. C'est ce qu'on dit généralement des grandes équipes ou du leader qui est avantagé, un leader qui aussi souvent attaque plus, donc se retrouve plus souvent en situation offensive et qui à force de multiplier la possibilité avec un dixième de dixième de demi de un, t'arrives à l'obtenir, alors que l'équipe qui va arriver une fois, ben, on a l'inverse. Qui est par exemple on va en parler de pendant les fêtes tu as vu c'est sûr le match City Crystal Palace scénar du match de City classique City attaque Crystal Palace met le nez en fin de match dehors, bim, ils obtiennent le péno. Eh ben oui, moi j'ai pensé, mais ça ne m'embête pas parce que pour moi ça fait partie. Je pense que dans l'autre sens, alors ça peut paraître paradoxal, je suis pas sûr qu'ils le donnent.
Ouais, c'est vrai.
Des fois, et c'est en Coupe de France, on a un peu le même le même genre souvent, de choses. Parfois,
on l'a vécu.
Un petit coup de main comme ça.
Mais ça veut dire, Daniel,
il y a une dimension psy. Mais là, un truc qui serait répété.
Daniel, ça veut dire qu'on a pas le droit de critiquer les arbitres. On critique plus les arbitres.
Mais là, on en vient.
Ils sont dans leur rôle, les entraîneurs, les présidents, quand ils défendent leur beefsteak.
Non, pas tout le temps.
Pourquoi?
Mais en fait, qu'est-ce que ça apporte?
Dis-moi
ce que ça apporte.
Peut-être pour en revenir sur le sujet de la pression psychologique. Peut-être pas par hasard.
Moment, l'arbitre là, on donne finalement.
Je sais pas. Tu parles de dixième, de dixième,
si
de dixième,
veux,
de dixième.
Je pense qu'il faut différencier les présidents et les entraîneurs. Les entraîneurs, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils se cachent. Encore une fois, parce que pour moi, c'est caché.
C'est pas dans le foot, d'ailleurs.
Derrière une décision d'arbitre contraire et qui se répète. Oui, possible que Garcia, on l'entend plus pleurer que Genesio par moment, que Emery, pareil par moment, que voilà tous ces entraîneurs. Mais ils font tellement de conférences de presse. C'est pour ça, Daniel, tu parlais de Mourinho, tu parlais de Wenger. Franchement, moi, j'ai même pas envie de taper sur eux là-dessus, sur ces confs de presse, parce que il y a tellement de questions et des questions connes par moment des journalistes que, au bout d'un moment, tu tombes dans. À mon avis, tu te mets dans une bulle et tu te dis, écoute, je vais leur sortir des choses qui vont peut-être les choquer, mais au moins ils vont me laisser tranquille. Non, mais c'est vrai.
Je pense que
Mourinho, il est tout à fait dans ce rôle-là et Wenger, il commence à s'y mettre aussi parce qu'il en prend.
Mais moi,
dans la tête. Les présidents, ça me dérange plus parce que là,
en fait, ils se rendent pas compte, ils alimentent quand même des polémiques qui débouchent sur des rapports qui sont haineux à une époque où le dialogue se fait énormément et plus facilement par le biais des réseaux sociaux. Ouais. Tu entretiens une sorte de climat de violence, une non-possibilité de dialogue parce que tu as sans arrêt la posture du « machin m'en veut, machin a plus que nous, on se met tous dans des positions victimaires ». En fait, tu ne t'en sors plus. Et c'est toute l'époque actuelle quand on résume ça en disant « on peut rien dire ». Ouais, aujourd'hui, ça paraît presque compliqué parce que chacun s'enferme dans sa chapelle et s'enferme de l'intérieur. Le Marseillais est totalement victime d'un système qui voudrait qu'ils n'obtiennent pas de pénalty. Moi, je veux bien entendre leurs complaintes. Mais d'abord, on en fait quoi de la complainte? Et deux, comment on prouve qu'il y a quelque chose? une sorte de complot ou de choses. C'est difficile ensuite. Après, tu provoques le Lyonnais Aujas qui te répond.
Mais attends, mais quel complot? Il faut arrêter avec ces choses-là et que ça soit les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens ou je pense que le championnat, on est tous là pour le dire. T'as besoin d'avoir
les exemple typique pourquoi Mariano Diaz à Lyon est convoqué pour une histoire de soi-disant simulation, alors que des simulations, t'en as 10 tous les week-ends en Ligue 1.
Parce qu'il est à l'Olympique. Ça, j'en ai parlé hier soir.
C'est tellement ridicule. Mais pourquoi? Parce que une fois, parce que Lyon est un club médiatisé, c'est un club phare de notre championnat et ça fait office d'exemple. Mais quel exemple?
Alors, tu vois, peut-être pas. Et peut-être, tu vois, et alors là, ça irait un peu dans le sens de tout ce bordel que je dénonce, quoi, tu vois, et peut-être je suis vraiment, vraiment, vraiment naïf. Peut-être que c'est parce que Jacques-Henri Hérault a fait cette sortie et a beaucoup pleuré, et s'est lamenté et machin, et des gens Ligue se sont dit, bon, bah, vu que l'autre, il lui est un péno en exagérant, en simulant, voilà, on va le convoquer.
Tu vois? Ça se trouve, c'est pas ça du tout.
Mais peut-être,
hein. Mais ça peut être joué.
Tu m'empêches pas de penser que ça crée un environnement et une ambiance.
Je suis complètement d'accord.
Et que c'est crame.
Surtout quand tu parles d'exemple donné.
Moi, en tout cas, je trouve vraiment, mais.
Non, puis surtout, il n'y a pas lieu d'avoir ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les grosses équipes en haut du championnat, en tête. Mmh. Alors oui, il y a Paris qui domine, mais pas par rapport à plein de choses. Mais derrière, on a des équipes. Marseille se rapproche de Monaco, de Lyon. Il n'y a pas lieu de dire, ouais, il y a des complots, on n'a pas envie de voir Marseille là, on n'a pas envie de voir Lyon, on dérange, mais on se dérange de quoi? Au contraire, tout le monde est premier à se plaindre quand Marseille, Lyon ou Monaco ou ces équipes-là, regarde Bordeaux, ce qu'on dit sur Bordeaux et Saint-Etienne aujourd'hui. Ils dérangent en étant dans les fin fonds du classement parce qu'on a besoin, le championnat a besoin d'avoir ces équipes-là en haut. Donc personne dérange, au contraire.
Allez, Lionel, supporter de l'Olympique Lyonnais, ça fait un petit moment qu'il attend au 32-16. Salut Lionel!
Salut messieurs.
Je t'en prie, sur l'avis tranché de Daniel Riolo, je te laisse exprimer ta position, ta réponse.
Daniel, je le trouve un peu gonflé quand même, parce que franchement, tu parles d'une ambiance délétère et tout comme ça, le premier qui met de l'huile sur le feu, c'est quand même toi, et prétend moins, hein, que ce soit les Marseillais quand ils viennent pleurer sur le foot, sur les pénaltys, ou les Lyonnais quand ils disent que c'est un scandale parce qu'on n'a pas sifflé un pénalty qui existait.
Et moi,
pas,
Lionel, je fais quoi?
Tu les traites de ouin-ouin.
Toi, tu les traites de ouin-ouin.
Et donc, qu'est-ce que ça fait?
Ah bah, ça énerve tout le monde. Dans un contexte où déjà
tu accuses pas le premier qui faute, tu accuses le deuxième, toi.
Ah bah moi, je lui
ah bah, qu'est-ce que je fais, moi, alors, Lionel? Donc, j'ai pas le droit de le dénoncer, alors, ça?
Daniel, tu sais ce que j'aimerais que tu fasses? Ouais. J'ai trouvé ton discours hier. Hier, j'ai entendu un truc. J'étais sur le cul. Ouais. J'étais pour la vidéo à fond la caisse. Et t'as parlé de la vidéo dans le foot comme j'avais jamais entendu un discours. Tu m'as convaincu qu'il fallait pas de vidéo dans la
Lionel, c'est un discours que je tiens depuis des années. Je suis content que tu l'aies entendu, mais il n'est pas nouveau.
Ton discours d'hier, le podcast d'hier, il faut absolument que les gens qui sont pour la vidéo l'écoutent, parce que ton discours sur le sujet m'a éclairé.
Bah, je suis ravi, Lionel.
Mais revenons-en à ce que tu disais, parce que
à ce que tu disais, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ça te dérange que moi, je le critique et que je les traite de ouin-ouin. En quoi moi, je suis responsable de ça, moi?
Alors, ce que je voudrais, moi, que tu fasses, c'est que tu sois du même niveau quand tu parles d'arbitrage. Parce que il suffit pas de dire, ouais, tu sais, l'arbitre, ça fait partie du jeu et machin, chose. Ok, il peut y avoir des mauvais arbitres. D'accord?
Ah, mais je le dis, ça, quand ils sont mauvais, ouais.
T'en parles des mauvais joueurs.
Mais les arbitres, je le dis aussi, Lionel, je trouve qu'ils font pas bien leur taf.
Et qu'à partir de ce moment-là, il y a des mecs qui peuvent dire, bah, écoute, moi, j'ai eu un mauvais arbitre et ce match-là, je l'ai perdu parce que j'ai eu un mauvais arbitre. Non, mais... On peut l'accepter, ça.
Oui, bon, alors éventuellement, allez, je vais me ranger de ton côté, mais là on parle d'un truc qui est un petit peu plus complexe, qui serait en gros c'est le monde entier nous en veut, il y a une forme de complot, on dérange. C'est un petit peu ce qu'avait dit Jacques-Henri Hérault avant Noël. Ça a été donc critiqué par Aulas. Finalement, ça crée une ambiance entre les deux clubs qui est malsaine et entre les deux présidents. C'est plus en fait comme s'il y avait un système, c'est ça qui m'emmerde. Après que sur un match Lionel, si t'as envie de dire sur un match on s'est fait enfler par l'arbitre, même si je fais jamais ça et je déteste ça, allez, si t'as envie de le faire, fais-le. Mais quand un entraîneur régulièrement revient et te sort sans arrêt ça. Ce qui est un peu le cas de le un peu le chef des ouin-ouin en Ligue 1, c'est quand même Rudy Garcia. En Angleterre, c'est Arsène Wenger. Mais moi, tu vois, quand je critique Lionel ça, moi je conçois qu'il y a des gens qui disent mais je suis pas d'accord avec toi, Daniel. J'ai pas de problème. Mais dites-moi ce que ça apporte de faire ça en fait.
Mais ce que ça apporte de faire ça, c'est comment tu veux. Enfin, moi, mets-toi à la place de l'entraîneur. Le mec, il a tout planifié, tout prêt, nickel. Il a tout prévu pour gagner le match. Tout prévu pour gagner le match. Il gagne pas ce match.
Non.
D'accord. Il a peut-être oublié un truc. T'as raison. Il a peut-être tort sur un truc. Peut-être qu'il a pas vu le truc qu'il fallait.
Tu sais ce que disent Lionel, ouais. les grands entraîneurs.
Dis-moi.
Ils le disent à l'envers de ce que tu dis. Toi, tu dis un entraîneur, il a tout prévu, machin, pour gagner. En fait, les grands entraîneurs disent que la variable erreur d'arbitrage doit être prise en compte dans le travail de l'entraîneur et que le métier d'entraîneur, écoute bien ce que je t'ai dit, le métier d'entraîneur, c'est de réduire l'incertitude.
D'accord. Tu réduis l'incertitude au maximum, sauf que tu joues contre une équipe qui est meilleure que toi. Le match d'hier, Arsenal-Chelsea, c'est ça.
Pourquoi?
Parce qu'Arsenal, c'est inférieur à Chelsea. Bah, aujourd'hui.
Sur le match, c'est pas tellement évident. C'est un match qui est équilibré, avec du rythme.
Non. Arsenal, c'est moins bon que Chelsea, normalement, sur le papier. Quand l'entraîneur prépare son match, il sait que Chelsea, ça va être plus dur que lui. D'accord? Moi, j'ai vu Paris-Lyon. Paris est supérieur à Lyon, quoi qu'il arrive. D'accord? Au final, on prend 2-0. Si tu ouvres l'équipe et que tu regardes 2-0, tu dis, le PSG a battu Lyon, voilà, c'est normal, d'accord? Quand t'as joué le match PSG-Lyon, tu t'aperçois qu'on a pris 2 buts contre notre camp, d'accord? Et qu'on a fait un superbe match.
On est d'accord, c'est ce qu'on avait dit ce soir-là, je suis d'accord avec toi, oui.
D'accord. Maintenant, dis-toi que t'as fait un superbe match, mais que c'est l'arbitre, au lieu d'en prendre 2 contre ton camp par hasard, tu prends 2 pions parce qu'il y a un arbitre. Et si je fais un pénalty, tu trouves quand même un peu limite, genre celui de Mariano, t'es pas sûr que vraiment l'arbitre. Et bien, il fait quoi l'entraîneur? Il dit, excusez-moi, mais là, ce match-là, on l'a perdu parce que l'arbitre était mauvais.
D'accord, mais on en revient à ce que je disais il y a un instant. Tu vas le faire peut-être sur un match où tu vas dégager beaucoup de frustration, mais le travail de l'entraîneur, une fois qu'il aura dit ça, sous le coup de la déception et de la frustration dans la conf d'après-match où il a la tête qui est encore un peu bouillante, si le lendemain, quand il arrive à l'entraînement, le surlendemain, quand il travaille sur le match, sa seule explication
C'est l'erreur
est réduite à ça. Là, on n'est plus du tout dans le travail. Et là, je te mets au défi de parler avec un entraîneur de haut niveau qui te dira pas que ce que je dis est vrai. Il prendra en compte effectivement le défaut dont tu parles, mais il est obligé de voir ailleurs à quel moment sur les 90 minutes il aurait pu faire mieux. À quel moment l'autre a mieux joué, quels ont été les temps forts, les temps faibles, il sera obligé d'évacuer ce fait de jeu-là. Le résultat fera que, au nombre de points, il les aura pas eu, mais pour avancer, pour travailler, tu es obligé d'éliminer la variable arbitre. Sinon, t'es pas un entraîneur de haut niveau.
Ça, je suis d'accord.
Alors après, que sur un match tu sois déçu, je veux bien que le supporter soit déçu, mais nous ici dans l'after, ce qu'on cherche à faire depuis 10 ans, c'est évidemment, on est l'émission qui est la plus écoutée par tous les supporters des clubs évidemment, mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'expliquer, et des gens comme Jérôme aussi sont là pour nous expliquer ça, que le travail, c'est pas uniquement d'aller chialer sur ce que l'arbitre a fait, c'est de penser à comment t'as préparé le match, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Après, si t'en arrives au terme à dire il y a eu aussi ce fait de jeu qui nous a un petit peu fait défaut, très bien. Mais si tu commences et tu ne t'en tiens qu'à ça, d'une, on va se faire chier, deux, on va pas avancer. Et c'est sur chaque semaine. Moi, je suis désolé, même les supporters. Toi, t'es pas supporter de l'OM, t'es supporter de Lyon. Genesio, c'est un mec, par exemple, qui parle jamais très rarement. Enfin, j'ai pas en tête comme ça, qui parle arbitre. Mais imagine. Le mec, chaque semaine, dans tes matchs, il te dit, l'arbitre encore déconné. Là, l'arbitre encore déconné. Mais toi, t'es supporter de l'équipe, t'as envie de savoir ce qui va bien, ce qui va pas bien. D'ailleurs, les Lyonnais, vous en parlez souvent. Beaucoup se sont plaints ces derniers temps. Genesio, il a pas mis la bonne compo. Il a pas mis ça. Il a pas fait ceci. Il a pas fait cela. Bon, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vas pas t'arrêter uniquement à juste l'erreur et on est victime d'un complot et on dérange et tout ça. Tu comprends qu'il faut bien aller au-delà de ça quand même.
Allez, on remercie Lionel d'avoir fait le 32-16 supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis obligé de te couper rapidement ta réponse, Lionel, parce que sinon Daniel va.
Je ne répondrai plus. Tu as le dernier mot, Lionel.
Alors, mon dernier mot, c'est. En 10 secondes, c'est très simple. Tu as raison, mais le problème c'est que il y a aussi une communication externe à avoir vis-à-vis du club et que tu peux pas tout le temps tout dire. Okay. Et dire que Mitroglou c'était pas ton choix, et il est peut-être plus simple de dire que l'arbitre était mauvais.
Ok, merci Lionel, supporter de l'Olympique Lyonnais.
Ça ouvre une autre piste, c'est avec intéressant.
Dans l'after. Bonne soirée à toi. Tiens, on va aller faire un petit tour à Wembley, Tottenham, West Ham, c'est la première ligue. Timothée Léon, le score a bougé.
69e minute de jeu, 1-0 en faveur de West Ham. Un but absolument splendide de la part de l'Espagnol Pedro Obiang qui inscrit son deuxième but cette saison. Une frappe somptueuse de l'entrée de la surface de réparation qui part dans la lucarne et qui vient battre le gardien de Tottenham, Hugo Lloris. But absolument exceptionnel. Cette statistique tout de même, Tottenham avait tenté 20 fois sa chance depuis le début de la rencontre sur les 70 premières minutes. Et bien West Ham avait tenté 0 fois sa chance. Première tentative, filoche, pleine lucarne, absolument splendide. 1-0 en faveur de West Ham à Tottenham.
Match de la 21e journée du championnat d'Angleterre.
Et tiens d'ailleurs, ça là, ce qu'on vit là, et ce qu'on a failli vivre à Manchester City, Crystal Palace. Il faut aussi dire quand même, parce qu'en ce moment, je suis dans la promotion de ce sport qu'on adore et de passion, et que en ce moment, ce que je déplore, c'est qu'on veut transformer ça et qu'on veut le robotiser. C'est le seul sport au monde où ce genre de truc qu'on voit ce soir arrive. Il n'y a pas d'autre sport où tu peux dominer 89 minutes en ridiculisant l'adversaire et te faire fourrer à la fin par un but à la con, une frappe en lucarne qui vient d'ailleurs, ou Crystal Palace, le mec rentre dans la surface, bousculade discutable d'ailleurs. Tout est discutable dans la bousculade de Sterling là qui revient défendre un peu. Hein, on peut. Surtout, t'as un grand sentiment d'injustice. T'as attaqué tout le long contre une équipe qui sait rien faire que te mettre des savates. Et bon, après, les mecs ont dit que Crystal Palace, tactiquement, ça avait été magnifique. Ouais. Ok, très bien. Je veux bien entendre ça. Allez, j'ai tout entendu pendant les vacances. Enfin bon, le péno. C'est le seul sport où on a ça. Réjouissons-nous de ça.
Exactement. Allez, on revient dans un instant dans l'after RMC BFM Sport avec l'avis tranché de Jérôme Roten sur l'Assana Diarra. Viendra pas au PSG, en tout cas pour Jérôme. Ça serait pas forcément une bonne affaire. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Arnaud Souk.
Jusqu'à minuit, l'after sur RMC en simultané sur BFM Sport. Vous allez sur rmcsport.fr, vous avez le son et l'image. Première heure consacrée aux avis tranchés. Tout de suite, l'avis tranché de Jérôme Roten.
J'ai pas une tête de Sénégalais, mais j'ai peut-être autre chose de Sénégalais.
C'est de plus en plus dur de trouver un bon melon.
Non, mais c'est qu'est-ce que c'est?
T'as osé dire ça?
Ouais, tu sais, on en fait tellement des fois que.
Ça, c'était un journaliste qui t'avait mis la pression dans une conférence de presse, non, c'est ça?
Non, c'est possible. Non, c'est possible.
Tu voulais nous parler
C'était Gilbert, en fait.
C'était Gilbert?
Il m'avait cherché ce jour-là.
T'as voulu le calmer, quoi.
Voilà,
t'as
exactement.
Voulu le faire comprendre. Tu voulais nous parler de la Assana Diarra. En parle, c'est vrai, au Paris Saint-Germain.
On en parle beaucoup. Là, on en est apparemment sur le point négociation de salaire. Alors, au début, ça m'a laissé un peu perplexe. Quand j'ai entendu ces rumeurs-là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis, en fait, peut-être que ça va se faire. Et moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée par rapport à plein de choses. Alors, attention, je mets en retrait, du moins de côté, la qualité du joueur. J'ai rien à dire sur la qualité de Assana Diarra. Quand il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, il est capable de faire des belles choses. Mais ces belles choses, il y a eu beaucoup de choses de dites au début de sa carrière. Moi, on a échangé quelques sélections ensemble. J'ai vu, c'est un joueur vraiment talentueux. Mais là, je te remonte à quelques années quand même. Hein. Depuis 2012-2013, en 6 ans, il a fait 80-90 matchs. En 6 ans. Donc, faut pas déconner au bout d'un moment. Faut pas déconner. Dans le sens que le joueur a 32 ans. Il a plus 25 ans. Donc, la marge de progression, tu la mets de côté. Le fait de revenir en forme, mais j'entends, encore beaucoup de consultants me dire que, ouais, mais c'est pas parce qu'il a pas joué pendant, du moins qu'il a fait 15 matchs en un an et demi, qu'il joue dans un championnat, en plus que mineur, hein, en Arabie Saoudite, où il a fait que 5 matchs à l'arrivée, il peut revenir.
Ah oui, même là-bas, il a fait que
5 matchs.
Et pourquoi il a fait que 5 matchs?
Ah, je sais pas, écoute,
franchement. Il a pas le niveau pour être titulaire.
Non mais c'est autre chose, le problème. Là-bas je suis pas le championnat Daniel, donc je peux pas te dire.
Moi, maintenant que tu suis tout.
Je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment il était pas payé. Donc bon ça c'est le salaire pose problème même au PSG mais déjà j'ai envie de lui dire si le PSG te veut mais viens, négocie rien du tout, c'est une aubaine pour toi. C'est une aubaine, l'Assana. C'est une aubaine. Ça peut être un gentil mec, un sauteur. Au bout d'un moment,
oui, il a de sérieux problèmes d'oseille.
Et puis, au bout d'un moment, le PSG, ils ont pas d'autre idée que de mettre l'Assana Diarra dans leur truc. Donc, pour finir, je dis la qualité du joueur, pas de problème, en pleine possession, c'est un super joueur. Il l'a montré à Marseille sur une année.
Une demi-année.
Ouais, une demi-année.
Mais bon, une très belle demi-année, par contre.
Mais une très belle demi-année où il est redevenu international, il a fait des belles choses, il nous a tous surpris, ouais. D'accord. Sauf que là, il a 2 ans de plus. Sauf qu'il jouait dans un championnat. Je
Après, il a que 32 ans, hein. Enfin, tu le disais.
32 ans.
Et 32, ça va, t'es pas rôti, non plus. Alors, Ronaldo, il a 32 ans aussi, hein.
Moi, j'ai envie de te dire, le PSG le prend pourquoi dans ces cas-là? Si c'est pour étoffer son effectif, mais c'est pas la peine.
Pour jouer la Coupe de France,
tu
de la Ligue.
Mais attends, Daniel, ouais. tu vas mettre de côté, donc, les joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, aujourd'hui, pleurent. Alors, c'est pas forcément toujours le même poste,
non,
mais
c'est bon. Ce poste-là, ils avaient pas.
Mais Lo Celso, il a joué en numéro 6. Ouais, ne dis pas qu'en Coupe de France ou sur des matchs de Ligue 1, il a montré qu'il avait le niveau. Donc, ça veut dire que lui, il va avoir moins de temps de jeu. Draxler, moins de temps de jeu. Parce que si tu me fais monter Rabiot un peu plus haut, Draxler, tu t'en prives. Pastore, j'en parle même pas. C'est pour ça qu'il veut se casser.
Mais alors, pourquoi il le prenne alors? C'est quoi l'idée?
Mais je sais pas.
Et essaye de comprendre l'idée.
Mais l'idée,
parce
c'est
que moi aussi, j'ai du mal à comprendre.
Si c'est pour étoffer l'effectif, c'est une connerie parce que
un mec gratos.
Parce que les jeunes. L'idée. Mais quelle idée? Mais arrête avec ton mec gratos. Mais non, mais j'entends. Mais
l'idée, il en est où celui qui aurait pu être 6 là?
Non, mais attends.
Comment il s'appelle? Caligari?
Non, mais ça. Caligari.
Il est venu quoi? Il a fini par partir.
Non, il joue en réserve du moins.
Mais il doit vraiment archi mauvais,
il doit être nul. Je crois qu'ils sont très même plus avec l'effectif pro, donc je te rassure. Donc déjà, voilà. Mais il y a du monde. Il peut y avoir un changement tactique. T'es pas obligé de jouer avec un numéro 6. Là, obligé de jouer.
Ah, j'ai quand même l'impression que c'est comme
non,
ça.
Mais
quoi.
Sur les gros matchs, Daniel, on est d'accord. Mais sur d'autres matchs, il est capable d'innover quand même, Emery. Et il est pas focalisé sur ce truc-là. Et sur un numéro 6, il peut changer. Il a mis Rabiot. T'imagines qu'aujourd'hui, il y a quand même dans l'effectif, il y a 3 possibilités. Rabiot peut pas forcément jouer là. Mais je pense qu'il s'y est mis quand même à jouer là. Et ils ont fait des bonnes perfs en Ligue des Champions. C'est Thiago Motta. C'est Rabiot qui jouait. À l'arrivée, il a peut-être même gagné sa place en équipe de France parce qu'il peut jouer aussi devant la défense comme ça. Donc, si lui veut jouer plus haut, t'as aujourd'hui Thiago Motta. Thiago Motta, il va pas se reblesser demain.
Ouais, et pour le coup, tu parlais de l'âge de Diarra, Thiago Motta.
Thiago Motta, c'est une référence au Paris Saint-Germain depuis qu'il est là.
Enfin, tu vas alors, pas comparer là, c'est un Diarra.
Je te parle en termes d'âge, de forme potentielle physique.
C'est un leader, c'est un joueur d'expérience. Thiago Motta, on va pas le critiquer après. Il a pas la vitesse d'exécution qu'il avait il y a quelques années, mais ça reste quand même une base solide. Et peut-être qu'aujourd'hui, Thiago Motta fait partie de l'équipe type de Unai Emery.
On le verra. On
le verra sur les gros match. Donc, à l'arrivée, tu prends pas Diarra pour qu'il te renforce sur les gros matchs parce que ton équipe type tu l'as. Donc, c'est pour que Lassana Diarra étoffe l'effectif. Et donc, où je te dis, et je l'ai dit, c'est que sur la très mauvaise idée, c'est que tu vas te priver de certains joueurs qui sont déjà en manque de temps de jeu et tu vas leur en donner moins. Mmh. Et à l'arrivée, on va faire comme ça a été le cas que
le
sur Guedes.
Le PSG, c'est quand même pas le plus gros turnover.
Dans ces cas-là, si c'est pour venir à Paris et jouer en réserve ou pas jouer, bah, autant ne pas le prendre. Tiens, c'est pas la peine.
Matteo, supporter du PSG, qui a fait le 32-16.
Je comprends pas trop non plus. Je sais pas trop ce qui motive ce choix, en fait.
On accueille Matteo, je te laisse réagir plus en détail, Daniel, comme tu veux. Matteo, supporter du PSG. Salut, Matteo.
Bonsoir à tous, salut Daniel, salut Jérôme, et déjà premièrement bonne année et
meilleurs vœux.
Et écoutez, alors moi j'avais dit là au standard que je défendais un peu le cas d'Assana Diarra, mais vos remarques m'ont fait un peu réfléchir, donc je vais être dans la nuance. Je pense qu'au vu des contraintes du PSG, je pense que là il y a plus un enjeu économique qu'un enjeu sportif, parce que je rejoins Jérôme, Assana Diarra, s'il est titulaire d'un gros match, il y a quand même quelque chose qui a pas tourné rond au Paris Saint-Germain. Et dans la rotation, on a des jeunes qui peuvent jouer, Nkunku, qui joue très peu cette année, alors que j'ai toujours trouvé qu'il était plutôt bon. Mais là où je peux du coup partir de ce principe-là, c'est que Paris peut pas recruter. On est bien d'accord, je pense pas que Paris peut dépenser de l'argent cet hiver, c'est malvenu avec le fair-play financier. Et du coup, Paris a décidé de prendre un joueur gratuit. Qui plus est, qui peut jouer la Ligue des Champions. Bon, si on est d'accord que ça paraît assez utopique, si on doit jouer avec Lassana Diarra en Ligue des Champions, mais on sait jamais, hein, Thiago Motta qui se
passe en 6 mois. Si tu prends Lassana Diarra pour jouer la Ligue des Champions en 6, ça veut dire que Thiago Motta est blessé et que la solution Rabiot n'existe
Daniel,
plus.
Daniel.
Et Diarra.
Daniel.
Je suis sûr que je veux dire ce que tu dis. Mais si Lassana Diarra a le niveau pour être aligné en Ligue des Champions, vu son CV depuis 5 ans.
Oui. Voilà.
Mais arrête de parler des matchs de 2010.
Dans ces cas-là, moi, tu sais quoi, je vais aller m'entraîner.
C'était un très haut niveau en Ligue des Champions.
Voilà.
Dans la Ligue des Champions l'année où il est en finale.
Bon, vas-y.
C'est
une farce. On s'en fout. Ce que je veux dire,
c'est pas du tout pareil.
Mais côté gauche dans ces cas-là, mais attends, c'est pour être troisième, je me remets en forme, ça va, je vais jouer. Hein. Attends, franchement, t'imagines, en 6 ans, il a fait à peu près 80 matchs, sachant que je te parle des 2 matchs au Real Madrid en 2012-2013, d'accord, 2 matchs sur la saison, et qu'après il est parti en Russie. Et après,
moi je comprends Jérôme, c'est très étonnant.
Après période de guéguerre avec le club russe, mais ça me regarde pas, il doit avoir ses problèmes. Il revient à Marseille, il fait 30 matchs, tout le monde surpris la première partie de saison. Tu te dis, putain, ça y est, il est international.
Bah, et
ça
repart en vrille. Il joue en Ligue des Champions et qu'il est bon, franchement, moi je le souhaite à lui, je le souhaite au PSG. Mais franchement, je suis sur le cul.
Mais moi je suis sur le cul, mais c'est surtout les joueurs à côté. Aujourd'hui, tu te prives de joueurs qui aujourd'hui sont déjà en manque de temps de jeu et tu vas prendre Vieira et tu vas le faire jouer Ligue des Champions. Mais attends,
Mathéo, vas-y.
Ouais, non, mais moi, je vous rejoins, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Moi, le point d'interrogation que je mets, c'est que je pense que l'arrivée de la Tanadira, faudra la juger à la fin du mercato. Paris doit vendre. Je comprends pas que ce soit toujours pas fait. Moi, je veux vraiment le fair play financier. Ça doit être le premier enjeu de la direction sportive du Paris Saint-Germain. Et je pense que Paris va vendre. Alors, voir qui, si Pastore part, si éventuellement, bon, au milieu de terrain, j'en vois pas beaucoup qui sont susceptibles de partir.
Eh ben ouais, c'est ça, mais c'est surtout ça.
Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, t'as raison, mais mettons, bon, déjà qu'on se débarrasse de Lucas et Benarfa, Benarfa veut pas, mais moins Lucas, mais au milieu de terrain, mettons, Pastore part, tu mets la Sanadiera, oui, ce sera plus un joueur de rotation. Après, faut comprendre, là, par exemple, on a dimanche un match de Coupe de France, mercredi Coupe de la Ligue, on joue la Ligue 1, il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner. Je pense que le vrai risque, bah, Jérôme,
tu fais faire avec le Celso,
un contrat à la Sanadiera de 2 ans et demi. Là, c'est terrible. S'il arrive à avoir ce contrat-là, je ne comprendrais pas le raisonnement parisien.
Mais s'ils lui font un contrat... Ça, déjà, Mathéo, là, on en est... Apparemment, on en est à la négociation de salaire où il serait pas d'accord avec le salaire. Mais sans déconner, mais oui. S'il les yeux fermés, calcule même pas ce que tu vas toucher. Non, mais attends, au bout d'un moment, il faut pas déconner. Si part dans cet état d'esprit là, mais je te dis, mais il faut même pas le prendre en plus de ça.
Attendez les gars, je vous coupe juste 2 secondes parce que le score a bougé à Tottenham. But absolument magnifique entre Tottenham et West Ham, Timothée.
Égalisation de Son à l'instant pour Tottenham. Un but absolument splendide.
Mais
là
reste,
aussi,
il reste 10 minutes au moins, Timothée.
C'est pas Wembley, il reste 6 minutes à jouer. C'est pas Wembley, c'est Cap Canaveral parce que là ils ont envoyé 2 fusées, les joueurs. C'est juste hallucinant. 2 missiles, les 2 sont partis en pleine lucarne. Imparable pour les gardiens. Un but partout. C'est Tottenham qui domine de la tête et des épaules. On a rappelé tout à l'heure les statistiques hallucinantes en faveur de Tottenham. Mais West Ham avait pris l'avantage sur sa seule frappe depuis le début de la rencontre. Et bien égalisation plus que logique pour Tottenham par Son.
Voilà, donc dans ce match de clôture de la 21e journée de Première Ligue. Je vous redonne la parole autour du sujet. Dira, tu voulais rebondir sur ce que disait Mathéo. Daniel, je sais plus ce qui. Je sais plus.
Non, Mathéo, sur la durée du contrat, Mathéo disait, si jamais il donne 200 de contrat, ça je comprends pas vraiment. Le mec, il en a pas de contrat. Fais-lui 6 mois, montre-nous en 6 mois ce que tu peux faire, ou 1 an, quoi, éventuellement. Ouais, après, je sais pas, ils l'ont observé. Il y a des gens qui savent qu'il est encore au top.
Non, mais attends, c'est bizarre. Daniel, comment tu veux observer un joueur qui fait 5 matchs là-bas?
Je sais pas.
Bah alors sur les 5 matchs,
je ne comprends pas pourquoi alors dans ce cas.
Pourquoi? Parce qu'il y a 1 an et demi, il a été très performant, et c'est vrai, avec l'Olympique de Marseille, mais dans un contexte qui est complètement différent. Aujourd'hui, être bon, moi je veux pas dénigrer les joueurs.
Emery était pas là pour avoir vu ça de près. Enrique était pas là alors que c'est lui qui a le recrutement. D'où est sorti ce nom-là? Pourquoi ils sont allés s'intéresser à ce joueur?
Parce qu'il se retrouve libre. Il se retrouve libre. Après, où là, je peux rejoindre Mathéo. S'ils anticipent déjà le départ de certains, mais a priori c'est pas des milieux de terrain qui sont censés partir. Donc Pastore, oui, alors là tu peux dire que c'est un milieu de terrain, Pastore s'il s'en va. Mais bon, franchement, tu remplaces Pastore par Diarra. De toute façon, Pastore il jouait quasiment pas et c'est pour ça qu'il s'en va. Donc de toute façon, ils vont pas mettre Diarra à la place de Pastore. Hein.
Tiens, Laurent a fait le 32-16 également, supporter du PSG. Salut Laurent.
Oui, bonsoir l'équipe.
Salut Laurent. Je te laisse la parole.
Je voulais juste savoir, je voulais poser une question à Daniel, je voulais savoir si le pull de Jérôme rentrait dans le lit de vin ou pas du tout.
Dans
la couleur lit de vin ou pas du tout.
C'est plus Bordeaux.
Non, c'est plus du Bordeaux.
Ouais, c'est un hommage aux Girondins de Bordeaux qui sont en difficulté en ce moment.
D'accord, ok. C'était juste pour savoir avant de commencer. Et moi je suis absolument.
Ou est-ce que t'as bien
Je suis absolument d'accord avec Jérôme Rotten. Sur le coup, là, on a été chercher un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, qui a fait 5 matchs. On ne sait absolument pas physiquement à quel niveau il est, en plus. Ça veut dire quoi? Il va avoir besoin de 6 mois pour se remettre en jambes. On ne va pas pouvoir le faire jouer tout de suite. Il va être opérationnel au mois de mars, avril. sur quelle optique? Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est en termes de communication.
Alors ça, j'étais pas au courant. Il ne peut être qu'opérationnel au mois de mars-avril.
En réalité, on a aucune certitude. Ce qu'il dérange, c'est qu'il faut qu'il se remette en jambes, quoi.
Non, mais ce qui me dérange, c'est encore une fois, t'entends les discours. Ouais, mais regardez ce qu'il a fait à Marseille. Ça faisait un an et demi qu'il jouait pas. Et il arrive, il s'impose. C'est vrai qu'il a été surprenant. Mais c'est pas déjà le même contexte.
Ça n'a rien à voir.
C'est pas le même contexte. Non, mais c'est surtout Daniel. Ce que je veux dire, je respecte les joueurs de Marseille à cette époque-là. Mais Diarra, des joueurs. Bien sûr, au niveau technique, il sait faire un contrôle, il sait faire une passe vers l'avant. Et ben, il y a beaucoup de joueurs de Marseille à cette époque-là qui n'arrivaient pas dans le milieu de terrain.
S'il a retrouvé l'équipe de France aussi, comme tu l'as
souligné, c'est ce que je disais. C'est exactement pareil pour Yanem Villa à Saint-Etienne. Mais ça va être Maradona, Yanem Villa à Saint-Etienne.
Ah oui,
mais écoute, il va prendre le ballon, il va contrôler, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur qui arrive à faire une passe vers l'avant, un contrôle? Mais attends, ça va être fabuleux. Mais c'est exactement la même chose à Marseille, dans le contexte Diarra. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, avec Diarra, des joueurs qui sont techniquement très à l'aise, qui sont beaucoup plus affûtés que lui, qui ont aussi une marge de progression, il y en a beaucoup.
Jérôme, si je peux me permettre ouais. quand même, et il y a aussi quelque chose qui me gêne beaucoup, moi, c'est en termes de communication. T'envoies quoi comme message, là, en fait? T'envoies quoi? Tu recrutes Neymar, tu vas chercher du Mbappé, puis à la fin, tu te rabats sur du Lascara. Ouais. On n'aurait pas pu aller chercher un petit Spinazzola, par exemple.
Ouais, mais après, encore une fois...
Ça, c'est un vrai joueur de foot au milieu, qui a une vraie plus-value technique, un vrai QI foot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, mais là-dessus, je te rejoins. Après, ça montre aussi peut-être les soucis avec le fair play financier du Paris Saint-Germain. Ils peuvent pas se permettre aujourd'hui d'acheter un...
Je sais pas, après, il faudrait regarder de plus près si... J'en sais rien. Les agents de Diarra sont proches de gens du PSG. S'il y a une sorte de cadeau. Ah, mais attends, Jérôme, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de cadeau-là.
Oui, non, mais
c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là dans le foot.
Ouais, mais ça me surprend aujourd'hui dans le PSG comme
ça. Mais le truc est tellement. Le truc me semble tellement énorme qu'il doit y avoir un tellement gros.
Est-ce que la vraie question finalement, excuse-moi Laurent, c'était pas. Enfin, la vraie question, est-ce que c'est pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de recruter à ce poste côté parisien? Parce qu'ils ont décrété, qu'il y avait un besoin de recruter.
Arnaud, c'est pour ça que je te dis, moi, tout est quand même un peu bizarre dans cette affaire.
Ouais.
Et attends, et si vraiment il y a un truc genre 2 ans de contrat, un truc comme ça, c'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre.
Laurent. Moi, j'avais une dernière question, c'était pour savoir, mais ces affaires financières à la Sanadia.
Non, il les a pas complètement réglées du tout. Il a encore beaucoup de problèmes.
Est-ce qu'on n'est pas là-dedans, en fait?
Je te dis que je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment accueillir cette nouvelle-là, et qu'effectivement, je trouve qu'il y a des choses, mais après, pourquoi le PSG lui ferait ce cadeau-là?
On en a parlé en plus dans c'est le cadre bizarre. D'une reconversion, non? Pour le potentiel aussi pour le staff. Hein? Il y avait des rumeurs comme ça. Voilà, aussi.
Une reconversion? Oui. Il a 32 ans.
Oui, non, mais pour plus tard, j'en sais rien, moi.
Ah, ben, putain, donc c'est plus un contrat de 2 ans, alors qu'ils vont lui faire, c'est un contrat de 6 ans. Non, sans déconner. Bon. Une reconversion. Ah oui, je savais pas qu'il avait été très proche du club du Paris Saint-Germain pour avoir une reconversion
après, c'est
aussi
droit. Comme tu disais, dans ces cas-là, il y avait Mvila aussi, comme mec, ancien international.
Et puis, Mvila, il joue, en plus, il jouait il était, à Rubin Kazan.
Oui, enfin, il jouait pas non plus énormément.
Mais entre un joueur qui joue à Rubin Kazan et un autre qui joue en Arabie Saoudite, dans un club, je sais pas où, et qui a fait 5 matchs.
Ah, c'est vrai.
Bah, franchement,
Moi, je suis sûr que tu dis ça parce qu'il a porté le maillot de l'OM, la Sanadia.
Mais pas du tout, il a été très bon à Marseille. J'aurais aimé qu'il reste à Marseille et qu'il s'impose. Après, ça s'est mal passé, le désaccord avec l'équipe dirigeante de l'époque, écoute, ça arrive, on lui a peut-être fait à l'envers, c'est pour ça qu'il est parti. Mais au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Et un joueur en 6 ans, je te parle même pas de ces 2 dernières années, parce que ça peut arriver d'être dans le trou sur 2 ans.
Sa carrière est quand même très bizarre.
Et depuis 2012, c'est 80 matchs. 80 matchs de haut niveau. Et aujourd'hui, tu vas lui dire, tiens, au mois de février, un cadeau. Tu vas jouer le Real Madrid. Mais arrête tes bêtises un peu, non?
On referme ce débat. Si on va aller à Tottenham, West Ham, ce sont les arrêts de jeu, Timothée Mémon, dans ce match de Première Ligue.
91e minute de jeu, il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Il en reste donc 3 toujours. Ce score d'un but partout entre Tottenham et West Ham. Et là encore, paradoxalement, regardez statistiques, c'est West Ham qui était tout près d'inscrire le second but tout à l'heure par l'intermédiaire d'André Ayou. Magnifiquement servi sur le côté gauche. Tottenham, de son côté, continue d'essayer. Mais ça reste brouillon. 92e minute de jeu, un but partout.
Allez, on marque une pause et on revient dans un instant dans l'after avec les infos du jour, notamment les infos mercato. Et puis on validera le score final de ce match Tottenham-West Ham. A tout de suite.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Arnaud Souk.
22h48, l'after jusqu'à minuit ce soir sur RMC avec Jérôme Roten et Daniel Riolo. L'after sur RMC et en simultané sur BFM Sport. Et on va aller suivre la dernière minute du temps additionnel. Tottenham, West Ham sous les yeux de Timothée Mémon.
Une minute tout pile effectivement à jouer, un but partout entre Tottenham et West Ham. Et Tottenham qui jette ses dernières forces dans la bataille. Ouais, ils essayent de mettre le ballon à la surface. Tout à l'heure Sanchez a manqué de précision. Ensuite on a vu sur le côté droit Serge Aurier glisser. Allez, peut-être une possibilité par Lamela là sur le côté droit. Le débordement, il est dans la surface de réparation. Le centre en retrait, beaucoup de monde pour toucher cette balle. La tentative de frappe de Son, nouvelle possibilité pour Sanchez. Entrée de surface de réparation, c'est contré une nouvelle fois avec la tentative de Son. C'est contré, peut-être de la main. Monsieur l'arbitre signale qu'il n'y a absolument pas faute. Nouvelle tentative, c'est puissant, c'est une nouvelle fois contré. Oh, combien de tentatives vont-ils finir les joueurs de Tottenham? Cette fois ce ballon sera dégagé par la défense de West Ham. C'était extrêmement chaud sur la cage d'Adrian. Hugo Lloris en position de libéro, peut-être. Allez, pour lancer un dernier missile vers la surface de réparation de West Ham. Le ballon qui sera tranquillement récupéré par la défense de West Ham United. Un nouveau ballon à négocier pour Hugo Lloris au pied. Le dégagement et c'est terminé. C'est terminé. Le coup de sifflet pour signifier la fin de cette rencontre. Contre-performance clairement pour Tottenham qui résultat reste un petit peu décroché par rapport aux quatre équipes de tête après cette période hivernale. Un but partout entre les deux formations. Mais quel but signé à Pedro Obiang à la 70e et Heung-Min Son, le joueur sud-coréen, à la 84e. Domicile splendide à voir et à revoir sans... Comment on appelle ça?
À la télé.
Sans modération.
On va les revoir à la modération. Télé si on a envie. Hein.
Voilà. Sans modération.
Ah d'accord.
Merci Timothée.
De rien.
Très bonne soirée à toi.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut se le faire genre 10 fois de suite, c'est ça?
Même 100 fois si tu veux. Hein, sans que cela ne te pose le moindre souci, visiblement, n'altère ton comportement. Voilà. Tiens, le classement général, du coup, Tottenham qui prend un point et qui remonte à 3 points de Liverpool qui est 4ème, même si Jérôme nous dit que le Big Four c'est.
Non,
c'est
mais désormais ils ont pas perdu,
City,
mais
United, Chelsea,
mais,
Liverpool.
Mais avant, quand tu regardes comme ça, City, bon.
À 3 points. Vont, enfin,
ouais, mais quand tu vois la dynamique, Liverpool est l'équipe qui a pris le plus de points sur cette période, là, le Boxing Day. Ouais. Et donc ça montre quand même une forme et une équipe.
Soyons précis s'il te plaît. Boxing Day, ça n'est qu'un seul jour.
Oui, 26. Oui, non, mais du moins la période.
Oui, moi, je veux qu'on soit précis.
Sur la période des fêtes.
La période
voilà. Sur les trois matchs disputés oui, en championnat anglais pendant les fêtes.
Je sais que tu le sais, c'est pour ça qu'il faut le dire.
Souvent, on fait l'erreur, du moins beaucoup font l'erreur, donc on va pas la faire. Excusez-moi.
Et d'ailleurs, là, c'est quoi le truc là, des rugbyman là, qui font j'ai eu la promo sur
les
Canal,
pulls.
Les trucs pendant les fêtes là, le Boxing Day du rugby et tout, mais genre tout devient Boxing Day parce qu'on est toujours entre les fêtes.
Oui, ben c'est la
rugby cherche on déforme tout pour le marketing, absorbe tout et invente n'importe quoi alors.
Bah écoute,
Boxing Day ça a une signification.
Parce que
c'est un seul jour et ça devient une période.
Parce que le rugby
joue entre les fêtes. Ah, tu sais Boxing
Day. Parce que le rugby anglais aussi a son Boxing Day.
Moi j'ai joué au tennis le 28 mai, putain je me suis fait un Boxing Day de tennis mon vieux là.
Au tournoi exhibition de couillon.
J'ai fait super perdu un Boxing Day de tennis.
T'as gagné.
Ah, bah, tout ce que tu fais entre Noël et jour de l'an, c'est du Boxing Day.
C'est Boxing Day.
Tu
fais quoi toi au Boxing Day?
Boxing Day, moi. Il était chez Auchan, il a fait le Boxing Day de chez Auchan.
Quoi, Boxing Day,
j'ai acheté un studio. Pape, là,
Mais pas du tout.
T'as trouvé
c'est pour le mariage de mon meilleur ami, alors s'il vous plaît.
Celui-là il vient pas de.
Il vient pas d'eux.
Bah de. Il vient de chez Auchan celui-là.
Je sais pas d'où il vient.
C'est
et ton pull il vient
au mariage de ton meilleur ami, t'as mis un opap comme ça
oui.
Et il t'a accepté.
Il m'a tout à fait accepté.
Pull c'est 100% cachemire mon coco.
Ouais, super.
Contre toi c'est 100%
100% quoi.
Acrylique, c'est de l'acrylique.
C'est de l'acrylique, quoi.
Tu mets les gars. Dessus, ça t'as une démangeaison immédiate.
Ah, déjà, elle a plein de boutons,
derrière,
là. Regarde.
Les infos.
Derrière la chemise, regarde les boutons qui poussent.
Les infos. Mercato, c'est absolument faux. C'est absolument faux.
Allez, vas-y, envoie-toi.
Je vous remercie de tuer ma crédibilité, les gars. C'est tellement adorable.
T'étais pas venu faire un tour avec nous.
Ah, bah oui,
je crois pas que t'allais t'en faire un tour.
Ça m'aurait manqué.
Ah, bah oui, on sait.
Ouais.
Attends, on te reconnaît, c'est déjà bien.
Mais oui, écoute, c'est très bien.
Alors, imagine si tu
charries comme il se doit.
Vas-y donc, sonne, là, le mec de Tottenham. Qui a marqué.
T'as vu le but qu'il met?
Ouais, il met un super but derrière, il fait chute au public. C'est la mode dans les chutes hein, maintenant.
Ah, il a fait chute.
Non, ça fait longtemps que ça existe, mais.
Il a fait chute là?
Ouais, pourquoi il avait été un peu sifflé ces derniers temps?
Ouais, un peu chahuté, mais bon, déjà il est pas titulaire, donc c'est compliqué. Hein,
bon,
mais...
en tout cas, il a marqué un but
donc, fait chute.
Contre West Ham.
La frappe, le but de West Ham est. Déjà, celui-là est très beau, mais le but de West Ham est encore plus beau.
Ouais, ouais.
On s'est régalé, effectivement.
Il y a plus vraiment lucarne, c'est que ça.
Les gars, vous allez regretter si je vous parle pas. Vous allez regretter de ne pas pouvoir débattre. Il y a Adam Villa à Saint-Etienne.
Tremble Sergio Busquets.
Tremble Sergio Busquets.
Ça n'est pas fait. On va le revoir.
C'est pas fait encore. Ça n'est pas fait, mais ça serait quand même en très très bonne voie. Voilà. Il manque plus que quelques détails à régler.
Donc je rappelle que le club et le joueur sont d'accord. Beaucoup de gens, notamment son entraîneur de l'époque, le voyaient facile prendre la place.
Il est déjà arrivé au Barça.
Non, pas donc qu'il soit déjà arrivé. Là, t'essaies de me piéger.
Parce que toi t'étais encore sur le terrain.
De quoi?
Toi tu sais pas, toi qu'à l'époque où il était à Rennes, son entraîneur de l'époque le voyait mais facile prendre la place de Busquets au Barça. Mbila.
Mais c'était Antonetti. Ouais, bah oui, j'ai entendu Roland tout à l'heure qui disait tout le bien qu'il pensait de Fred.
Mais bon, écoute. L'avenir, effectivement, a démontré.
À l'arrivée, après 10 matchs, il était international.
Ça renvoie au débat que tu as essayé de lancer avant-hier.
En 2012, on appelait ça, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, le championnat était vraiment encore plus faible que maintenant.
Et
le mec faisait des passes verticales et on appelait ça la passe Ligue des Champions. Vous vous rappelez ce concept? Mmh, ouais. La passe Ligue des Champions.
Mais qui appelait ça comme ça? Il y avait une personne qui appelait ça comme ça.
Le monde du foot. Ouais. Toi, tu viens d'arriver parce que t'es tout jeune. Nous, ça fait quand même 10 ans.
C'est vrai qu'il y a eu des évolutions,
des éléments de langage. Et Yann Mvila, non seulement avait sa place au Barça, parce que
Busquets. Mais avait la passe Ligue des Champions.
Il était, tu vois, Busquets, c'était bidon, quoi. Fallait le mettre immédiatement au placard. Et Villa, il avait la passe Ligue des Champions. Personne d'autre l'avait.
On n'avait pas d'équipe
en Ligue des Champions.
Non, puis à Rennes, il en faisait beaucoup des passes Ligue des Champions.
Ouais.
En tout cas, ça renvoie au débat que tu lançais l'autre jour, avant-hier, je crois. Et ton pépite toute sa vie. Reste ton pépite toute sa vie. C'est vrai qu'Yann Mvila, pour le coup, c'est quand même la pépite.
Ouais, à l'arrivée, t'imagines, Yann Mvila, t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle et il a que 27 ans.
Bon, Yann Mvila, ceci dit, je pensais. Et un joueur qui a beaucoup de qualité.
Ouais, exactement.
Qui, bon, avait pas la tête super bien sur les épaules.
On rappelle des affaires de mœurs, l'histoire de la virée avec Ben Yedder, avec Griezmann et
Chipolitique.
C'est un beau joueur.
Et ce que je veux dire, c'est ce que je répète tout le temps quand je me moque des joueurs ou quand je. Tu sais, c'est comme dans le tennis, hein. À part un ou deux, dans les 50, ils savent tous tout faire. Hein. Après, c'est la tête, le travail. L'entourage, l'investissement que tu mets au tennis, dans le staff qui t'entoure, au foot, l'environnement dans lequel tu es, et l'entraîneur qui te fait progresser ou non.
Il y a aussi beaucoup de choix de carrière, les mecs qui te font faire les choix de carrière.
Lui maintenant ça va quand même être compliqué.
Et là c'est vrai qu'on
ça fait combien de temps qu'il est barré lui?
Il est revenu en Angleterre, il a été prêté.
En fait depuis Rennes et tout ce qu'on disait de positif sur lui,
ça a été compliqué.
À son meilleur niveau, il peut vraiment faire la différence.
Mais le problème, c'est que son meilleur niveau, on se souvient plus de ce que c'est. Est-ce que tu retrouves un niveau comme ça? Quoi.
Admettons un très bon niveau. En tout cas, aujourd'hui, il semblait dire qu'il allait surnager à santé.
Tu veux dire que ce sera meilleur que Pajot?
Mais attends, tu prends tous les milieux de terrain aujourd'hui de Saint-Etienne qui vont plus du tout vers l'avant. Alors pas parce qu'ils peuvent pas le faire, parce que je pense que dans la tête ils sont tellement ils sont limités techniquement. Hein, plus là ils sont la tête dans le seau. Donc lui, Mvila, forcément, il va surnager. Et même à 70%.
Il faut qu'il revienne et tout. Non, je sais pas. Il jouait vraiment là où il était là.
Daniel, écoute, on verra. Après, je te dis pas qu'il va enchaîner les matchs comme ça, 90 minutes d'entrée et tout. Mais je te.
80 matchs en 4 ans. C'est un peu comme.
C'est mieux. Ça fait pas beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux.
Mais
ça fait pas beaucoup. Mais on est d'accord. Mais peut-être que l'enchaînement des matchs, il va avoir du mal. Mais je suis sûr qu'il va apporter au moins
Il va nous faire quel état d'esprit il arrive. S'il arrive dans la peau du sauveur, je fais ce que je veux, parce qu'il avait quand même une attitude qui était un peu limite dans un groupe.
Si c'est ça, dans ces cas-là, il faut pas qu'il vienne.
On rappelle que c'est quand même un garçon qui a 22 sélections entre 2010 et 2012.
Non, mais c'est
19 et c'est 21.
Et puis, Gassel avait fréquenté, en
équipe de France, donc il le connaît. Non, mais en plus, il était dans une bonne période à ce moment-là, mais surtout sur les 22 sélections, il faudrait savoir, mais il a souvent été titulaire. Avec les
J'ai pas le nombre de titularisations, mais c'est ça.
Là, c'est la période marinière. Maillot marinière et le fameux match
exact.
Bosnie.
C'est la période Marvin Martin aussi, non? Marvin Martin, non? Et il devait pas être dans
ce. Il doit pas être très loin de cette période-là, oui.
Ouais.
Oui, bien sûr que oui.
On continue à développer les infos.
La marinière,
oui, je m'en souviens, absolument. Mais j'ai jamais eu, moi, j'ai le maillot 2016.
juste Euro 2016 et Coupe du Monde 98. Voilà.
Ah ouais, t'as choisi.
Bah tu vois, j'ai que des maillots de finale quoi.
Quasiment. Euro 2016.
Euro 2016, j'ai le maillot et Coupe du Monde 98.
De qui c'est qui te l'a offert le maillot?
De l'Euro 2016. Ouais. Tu veux vraiment savoir?
Bah oui, bah dis-moi.
Bon, je sais pas te dire ça.
Bah, c'est un cadeau.
Bah non, c'est un cadeau.
Ah mais c'est pas un joueur.
Ah non, non, non.
Ah, je
non,
crois que c'était un joueur.
Ah,
tu veux que je te dise
si c'est ta maîtresse, je veux pas le savoir.
Le seul joueur qui m'a offert un maillot, c'est Panchi Sirex.
Et alors?
Bah c'est très bien,
je suis complètement fan de
lui. Ouais, attends, franchement, c'est fou.
Absolument pas, tu rigoles?
Ce petit pic et tout là.
Attends,
regarde, il rigole.
Ah, je savais pas qu'il était fessé.
Mais si, tu le sais à chaque fois.
Sirex, respecte-le, Sirex. Attends, il a fait une super carrière.
Je pense à chaque fois, je crois que c'est Nice.
Dans les murs à Toulouse.
Ah bah oui.
Moi, à chaque fois, je pense que c'est Nice en équipe.
Bon, messieurs, on continue à développer les infos mercato dans un instant. L'after revient sur RMC. BFM Sport, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.